Une question de Nil. Bonjour Laurent. Tu disais que les EDLN étaient tous beaux. Je voulais savoir justement pourquoi l'on trouve certaines personnes moches et d'autres belles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on trouve quelqu'un de moche, alors il faut regarder d'abord soit l'aspect, on va dire, matériel, ou soit l'aspect vibratoire. Donc, par exemple, tu prends un acteur, par exemple, du style Fernandel, c'était pas la beauté incarnée. Et pourtant, tout le monde l'aimait. Donc, il avait une beauté vibratoire. Et cette beauté vibratoire a fait dépasser tous les freins qu'il y avait à la beauté physique. Voilà. Ensuite, tu peux avoir une beauté physique qui n'est pas une beauté vibratoire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des personnes qui, on va dire, au niveau de la plastique, nous paraissent excessivement belles parce qu'elles sont harmonieuses, les traits sont. Enfin, c'est bon. Hein, selon certains critères, on est d'accord, hein, c'est un occidental trouvera telle personne belle, alors qu'un indigène la regardera et dira, mais qu'est-ce qu'elle est moche comme un cul. Donc, au-delà de cela, quand une personne a une véritable beauté, c'est d'abord une beauté vibratoire. Et si elle a cette beauté vibratoire, c'est-à-dire qu'elle vibre, on va dire, à une fréquence supérieure ou dans une harmonie, on va dire qu'il y a moins de bordel en elle, eh bien, automatiquement, elle attirera à elle et on la trouvera belle. Donc, si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a des personnes, par exemple, des filles qui, quand on les trouve super belles, pourtant, elles ont un œil qui est complètement déplacé par rapport à l'autre, elles ont un strabisme, enfin, bref, il y a des choses qui ne jouent pas et pourtant, on les trouve belles, charmantes. Donc, la véritable beauté est une beauté vibratoire. Après, la beauté dans la matière est une autre chose. Mais, comme tout, quand des gens vont regarder certains mannequins qui sont des sacs d'os, ils disent, ah, c'est beau. Et si vous demandez à 100 personnes, est-ce que tu trouves cette fille belle? Il y a 95 types sur 100 qui vont dire, non, c'est un sac d'os. Et pourtant, vous trouverez ça dans tous les magazines. Donc, il y a une certaine forme de beauté qui est mise dans les médias, mais qui ne correspond pas à une véritable beauté intérieure. Donc les EDLN sont beaux. Et pourquoi ils sont beaux? Parce qu'ils sont dans l'unité. Rappelez-vous, ils sont dans l'invisible, c'est-à-dire ils sont au service du son. Et donc, c'est pour cela que chez eux, il n'existe pas de moche, de beau. Ils sont tous différents et ils acceptent cette différence sans même un iota de jugement, car ça ne leur viendrait pas à l'idée. Donc il en est de même pour les galactiques, les extragalactiques et les intraterrestres. C'est-à-dire que toutes les formes de vie se côtoient sans même se poser la question d'une comparaison possible. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que plus vous montez dans les dimensions et plus les êtres, alors on va dire les EDL, les êtres de lumière, sont parfaits. Vous les regardez, vous dites c'est parfait. Et il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à ôter, c'est. Et donc, tout être de haute dimension, de dimension supérieure, quand il regarde vers le bas, eh bien, il peut regarder aussi bien une licorne, qu'un gnome, qu'un esprit cristallin. Il ne se posera pas la question si c'est beau ou si c'est pas beau. C'est. Et donc, c'est en cela que tous les êtres de la nature sont beaux. Ils sont beaux car ils sont dans l'unité. Et donc, c'est en cela que se rapprocher d'eux nous permet de nous rapprocher de nous-mêmes et de notre véritable beauté. Alors, une question de Bennett. Une autre question que j'avais déjà posée sur la webconf qui n'a pas été enregistrée. Que veut dire le fait que j'ai vu sur un arbre la forme, je précise la forme se voit très nettement, d'un lutin, puis au bout de quelque temps, j'ai aussi pu voir sa fille, que je n'avais jamais distinguée avant, et dans la nature, un peu plus loin, une forme créée par un arbre qui représente un ogre. Je dirais. Depuis 2 semaines, juste à côté de l'ogre, il y a une tête de dragon ainsi que son cou et sa patte. Enfin, c'est ce que je vois. Est-ce un premier pas vers nous avant de les voir vraiment? Et pourquoi sont-ils figés sur un support et semblent statiques? Je leur parle chaque jour, mais je n'ai perçu encore aucune réponse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, ils bougent. Ils peuvent nous paraître statiques. Donc là, Bennett, tu peux voir avec tes yeux, et c'est une image que ton cerveau capte. Ça, c'est très bien. Pour maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est que maintenant, il serait intéressant que ce soit ton cœur qui capte, c'est-à-dire ta capacité à pouvoir communiquer avec. Donc là, à ce moment-là, eh bien, parce que quand tu dis « je leur parle chaque jour, mais je n'ai perçu aucune autre, encore aucune réponse », c'est parce que tu t'attends une réponse comme tu leur causes. C'est-à-dire, tu dis « ah, bonjour, comment tu vas ?» et puis l'autre, il va répondre « ah, bonjour, je vais bien, et toi ?» Ça n'existe pas à ce niveau-là, principalement. En effet, d'abord, quand on est dans l'invisible, la nuit n'existe pas. Ils sont toujours dans le jour. Donc, il n'y a pas de jour-nuit chez eux. Ça n'existe pas. Donc, ils sont toujours dans la lumière, visible pour eux, qui nous est invisible. Mais ils sont toujours dans la lumière. Donc, quand vous leur dites bonjour, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Leur dire au revoir non plus. Donc, ils sont un peu dubitatifs hein, par rapport à nos visions. Hein. Premièrement, et deuxièmement, si vous vous parlez avec la gorge, eux, ils peuvent parler avec la gorge, mais vous n'entendrez rien parce que vos oreilles physiques ne pourront pas l'entendre. Donc n'essayez pas de communiquer avec eux comme vous communiquez avec des humains. Essayez de percevoir sous des formes différentes. Et vous verrez que la manière de parler et de percevoir, enfin la manière de percevoir leur conversation commence toujours par des choses extrêmement simples, qui est tout simplement le oui. Tant que vous ne serez pas capable de pouvoir déjà vous mettre d'accord quand il dit oui, là, vous aurez un problème. Une fois que vous pouvez sentir qu'ils vous disent oui, hein, et donc ça se fait directement, comme je dis, par les mains, hein, l'énergie ou un truc comme ça. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes en contact, si tu vois ce lutin et tu lui dis « Lutin, est-ce que tu m'entends ? Si tu m'entends, au lieu d'être là où tu es, peux-tu venir sur la pierre qui est à côté de moi ?» Et avec les mains, vous allez sentir l'énergie de l'entité. Si elle se déplace, c'est qu'elle a répondu oui. Et à ce moment-là, eh bien, en mettant, on va dire, une pierre à gauche et une pierre à droite, eh bien, il y a une pierre, c'est oui, et l'autre, c'est pas oui. Donc, c'est facile. Donc, comme ça, vous pouvez commencer à poser des questions, et en fonction des questions, des réponses, ben, il sera sur la pierre ou pas. Donc, comme ça, vous pouvez commencer à avoir un langage. Et petit à petit, plus vous commencerez à savoir comment il fonctionne, et plus vous allez découvrir comment il vous parle. Mais ne vous attendez pas forcément à avoir tout de suite un dialogue comme si vous étiez avec un humain. C'est comme un humain qui veut causer avec un chien, le chien fait waf waf, et puis ça s'arrête là, quoi. Il vous dit, ouais, c'est bien, waf waf, et il vous dira toujours waf waf. Il vous dit, bon, ok, d'accord, la conversation est limitée, alors qu'est-ce que tu veux dire derrière ton waf waf? Et c'est là qu'il faut aller un petit peu plus loin. Alors, attendez, je lis un petit peu. Alors, je continue comme ça sur le chat. Il y a quelqu'un qui dit « Qui entretient les dômes ? Quel rapport avec les crânes ?» Alors, il faut savoir que les dômes, c'est quelque chose qui est énergétique et donc qui est en lien direct avec la grille cristalline. Et donc, qui sont les gestionnaires de la grille cristalline en termes d'information et de structuration de la grille cristalline, ce sont les crânes, c'est-à-dire les entités cristallines. Un dôme est cristallin, je signale. Hein ? Alors, il y a Bennett qui dit « Je suis en compagnie de mon chien à chaque fois. Le DNA peut-il être gêné par l'animal ?» Alors, par définition, non. Par définition, non. Mais après, tout dépend du tout. C'est-à-dire que vous savez que le chien est l'ami fidèle de l'homme. Hein, et l'homme l'a corrompu. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin bon, c'est de tout temps, l'homme a dressé des chiens contre l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des chiens qui sont prêts à bouffer n'importe qui. Il suffit que leur maître dise attaque et ils font pas de cadeau. Donc, si c'était un véritable EDLN dans la loi de l'unité, il bougerait même pas d'un iota. Parce qu'il saurait qu'il n'a pas absolument, il n'a pas le droit d'attaquer un créateur. Donc, après, tout dépend donc de l'entité elle-même. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Le mieux, c'est que tu fais l'essai, tu vas sans ton chien et tu vois ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Est-ce que certains EDLN ont déjà transité sur Eléa? Oui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous savez que, comme tout à l'heure, on disait, les nains travaillent surtout avec les racines des arbres pour faire monter l'information de moment bah, de la terre vers l'entité qui est en train de grandir vers le ciel. Eh bien, effectivement, il y a déjà sur Elea un certain nombre de DLN qui travaillent. Or, ces EDLN sont généralement de taille, pour l'instant, très minuscule parce que ce sont, on va dire, des entités très comment dire, très spécialisé. En clair, comme je parlais par exemple des esprits cristal tout à l'heure, qui vivaient en haut de la montagne, une pour refroidir l'eau et l'autre pour synthétiser l'eau, eh bien ce sont des EDLN de cette nature. D'accord? Hein? On va dire des élémentaux. Donc il y a beaucoup d'élémentaux qui sont passés. Mais jusqu'à maintenant, sur Eléa, il n'y a pas de gros EDLN qui sont passés parce que le décor n'est pas encore prêt pour les accueillir. Que ferait un arbre s'il n'y a déjà pas de matière où il peut mettre les racines? Donc, que ferait un elfe s'il n'y a pas d'arbre? Hein? Vous comprenez? Donc, il y a un ordre des choses, et effectivement, sur Elea, ce sont d'abord des élémentaux qui sont passés, et qui en sont là pour assembler, on va dire, la matière minimale, afin que les autres règnes puissent venir. Alors, une question de Fanny. Je te pose la question, mais c'est moi qui le sais, mais je veux savoir ton opinion. Que penses-tu sur le fait qu'on a besoin de rien? Alors, le truc, c'est que c'est facile à dire, on a besoin de rien. Eh bien, tu verras que si tu as besoin de rien, tu seras déjà illuminé, tu seras déjà Christ et tu n'auras rien à foutre ici. Donc, si tu es là, c'est que tu as besoin de quelque chose. Or, ce besoin de quelque chose est d'exprimer ta propre nature. C'est-à-dire ce que tu es véritablement. Et donc, tant que tu n'auras pas la maîtrise de tout ton clavier, de toute ta harpe, de toutes tes notes qui te composent, c'est-à-dire la totalité de tous les fragments qui te composent, eh bien, tu auras besoin. Parce que si tu n'avais pas besoin, tu ne ferais plus rien. Et donc, contacter les êtres de la nature est en soi un besoin, car sans eux, nous ne pouvons pas augmenter nos fréquences d'une certaine manière. Parce que si tu n'es pas capable déjà de parler à ton voisin, on va dire sur la bande de fréquence juste d'à côté, comment veux-tu aller discuter avec des entités qui sont, on va dire, 5 dimensions plus loin? Voilà, donc le simple fait de poser la question, Fanny, dit tout simplement que ton mental ego est encore en train de jouer avec une règle de base. Que j'appellerais tout simplement bisounours. Si tu as besoin de rien, alors tu as besoin d'aucun compagnon, tu as besoin d'aucune maison, tu as besoin d'aucun chien, tu as besoin d'aucune guenille, et tu n'as même pas besoin d'un corps physique. Enfin, je l'interprète comme ça. Donc, ne crois pas que si tu as besoin d'un rien, enfin, bon, bref, vous avez compris, je pense. Alors une question de Mille. Salut Laurent, avec tes prochaines tournées, tu rencontreras peut-être certains d'entre nous. Tu connais ton niveau vibratoire, mais peux-tu, Corinne, dire quel est le niveau vibratoire d'une personne en sa présence? On ne peut pas le dire, mais on peut le sentir. Et par principe, c'est quelque chose qui ne se dit pas, mais ça se ressent. Donc si quelqu'un a déjà du respect pour lui-même, tu le sentiras. Si, parce qu'il sera beau et harmonieux. Si il a déjà un pied dans la 5D, tu sentiras qu'il émane de lui quelque chose. Tu le sentiras. Enfin, t'as pas besoin de dire, ah, toi t'es en 5D, parce que là, ou toi t'es en 6D, ah, toi t'es en 10D, ou toi t'es en 3D, parce que là, c'est une comparaison, et qui ne mène qu'au mental ego qui veut comparer. Donc, par principe, et c'est les lois de la nature, on va dire, hein, et parmi tous les êtres de la nature et des ADN, eh bien, il n'y a absolument aucune comparaison dimensionnelle. Donc, personne n'a à savoir où en est quelqu'un, c'est simplement ce qu'il est et ce qui vibre qui fait que il sera apprécié. Et sachant que tout être qui est dans la loi de l'un ne cherche qu'à donner le meilleur de lui-même et donc progresser. Et donc, on va dire, pouvoir monter de notes. Donc, tous les êtres de la nature sont dans le principe de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ils savent qu'il y a des promotions. Donc, nous avons rencontré quelques êtres de la nature qui avaient reçu des promotions. Hein, c'est-à-dire, je crois qu'il y en avait un, c'était... Il s'appelait Yéyé. Et il nous a dit, ouais, ça y est, j'ai gagné ma promo, maintenant ça va être Yéyé-elle. Bon, voilà. Alors, une autre forme de promotion chez les êtres de la nature, c'est qu'ils changent de taille. C'est-à-dire que nous avons un processus de... on grandit enfin, physiquement jusqu'à une certaine taille, et puis après, bon, on y reste tout le reste de sa vie jusqu'à la tombe, à quelque chose près. Eh bien, eux, ce n'est pas le cas, puisque les notions temporelles ne sont plus du tout les mêmes que chez nous. Et donc, ce qui fait la différence, c'est leur taille. C'est-à-dire que plus un individu est monté en fréquence, plus sa taille augmente. Donc, vous pouvez, par exemple, trouver chez les licornes des petites licornes qui font 1 mètre de haut. Puis vous allez en trouver qu'il y en a qui font 3 mètres de haut. Celle qui fait 3 mètres de haut, généralement, c'est qu'elle a vibratoirement une patate, une puissance d'enfer. Mais son rôle est de d'aider toutes les autres à avancer. Donc, c'est comme si on était comme un sac d'énergie, et plus tu montes en énergie, plus le sac devient gros. Donc, il y a des petits nains, il y a des grands nains, la forme va bouger en fonction de leur niveau vibratoire et de l'atteinte de leur niveau vibratoire. Donc, chez les elfes, c'est pareil. Donc, ils ne grandissent pas dans le sens. Ils ont une taille normale, hein, je veux dire, ils sont enfants, et puis ben, l'enfant va grandir par, on va dire, succession fréquentielle de compréhension. Et puis après, il aura une taille adulte, mais cette taille adulte ne sera pas définitive. Il pourra avoir des tailles supérieures. Alors n'imaginez pas un nain qui fasse 10 mètres de haut, ça n'existe pas, hein. Mais il peut y avoir des entités un petit peu plus grandes que les autres, oui. Lorsque j'ai une sorte d'acouphène, je sais que je vibre assez haut, c'est le cas. Alors, bon, maintenant revenons un petit peu au questionnaire. Une question de Jean-Phi Dupi. Les médichlorels ou médichloriens seraient des entités intelligentes énergétiques subtiles. Elles résideraient dans les noyaux des atomes qui composent notre corps physique et contiendraient la mémoire de tous nos vécus. Elles n'appartiendraient pas, selon moi, au groupe des EDLN, mais au monde quantique en liaison avec notre être-té, pleine conscience et la source. Peux-tu nous en dire davantage et quel rôle joueront-elles lors de notre ascension? Alors, j'ai entendu parler des médichloriens la première fois de ma vie dans un film qui s'appelle Star Wars. S'il n'y avait pas Star Wars, je ne savais même pas que ça existait. Alors, ce sont, faut savoir, des étiquettes que l'on met sur les choses. Comme tu as pu le voir dans mes différentes vidéos, plus nous nous rapprochons du noyau des atomes, c'est-à-dire des quarks, et plus nous avons affaire à des dimensions supérieures. Et donc, ces dimensions supérieures, il y a forcément des entités. Alors, certaines personnes ont mis ces noms-là, mais dis-toi bien que quand nous parlons d'anges, d'archanges, d'archers ou de tout ça, ce ne sont que des étiquettes que nous mettons, car ils ne sont que vibrations. Ce ne sont que des grades. Donc, par exemple, quand nous parlons, je dirais, de tel ange ou de tel ange ou de tel ange, dites-vous bien que vous ne donnez que des grades. Ce ne sont pas le nom de ces entités. C'est comme par exemple sur la touche du clavier, tu dis ça, c'est un do dièse, je ne sais pas de telle octave. Ok, c'est une étiquette que tu as mis, mais lui s'en fout royalement. Il est ce qu'il est. Donc, il n'a pas de nom en tant que tel. Et quand nous avons affaire on va dire par exemple, à des dragons, à ce qu'on appelle des extragalactiques, c'est-à-dire à des entités qui viennent de l'au-delà de notre galaxie, eh bien généralement, on ne peut pas leur donner de nom, parce qu'ils sont pure vibration et ils pourront pas dire je m'appelle Tartampion. Ça leur est totalement inconnu. La vibration est tellement basse en disant Tartampion que ça ne correspondrait absolument pas du tout à ce qu'ils sont. Donc ils ne peuvent pas donner leur nom. Donc généralement, par principe, ils prennent une étiquette, sachant que cette étiquette n'a pas de rapport avec leur vibration. Mais ils savent très bien que si on n'arrive pas à mettre une étiquette sur eux, on ne pourra plus savoir à qui on veut causer. Donc si tu connais 5 extragalactiques, tu dis, mais comment je vais causer avec ces 5-là si je ne peux pas les nommer? Donc tu mets un nom, un pseudo sur eux, mais tout en sachant que ce pseudo n'a absolument rien à voir avec leur vibration. Le monde vibratoire que nous connaissons est tellement bas dans la densité qu'il y a des vibrations que nous ne pouvons plus, nommer. Ça va au-delà du son que nous pouvons entendre. Alors, une question de Taragrim. Partant du principe que chacun a sa mission à découvrir et actionner dans cette vie, c'est clair que sans un masculin, les vortex et les cheminées telluriques, moi je ne peux pas les débloquer toute seule. Donc, c'est pas ma mission, sinon je serais comme toi et Corinne en train de le faire. Je ressens par contre le besoin de me rapprocher de plus en plus physiquement de toi et Brigitte sans pour autant vouloir interférer dans vos missions respectives. Je ressens une urgence que je ne ressentais pas avant. Ma petite voix se tait là-dessus. As-tu des mots pour remplir les blocs? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons tous, en nous incarnant dans ce corps, dans ce véhicule, une mission. Une mission envers le sans-nom, car nous sommes le sans-nom en action. Et donc chacun est un rouage, on va dire, comme dans une montre. Il y a des petits rouages très fins, il y a des gros rouages, il y en a des moyens, il y en a qui seront, on va dire, l'aiguille des secondes, l'autre l'aiguille des minutes, l'autre l'aiguille des heures, l'autre le cadran des jours, l'autre ça sera le cadran de la lune, enfin bref. Donc chacun a sa mission, et bien sûr, vous pouvez imaginer que si chacun y va selon sa propre envie et son propre ego, la montre elle a du mal à tourner, quoi. C'est-à-dire que il y en a un qui dit je suis petit pignon et moi je veux devenir gros, ça va pas jouer. Donc l'objectif, hein, on dit je suis un pignon à 5 dents et puis je voudrais en avoir 6. Mais c'est sûr que ça va foutre le bordel quelque part. Alors, nous avons tous une mission, et cette mission nous est confiée par notre petite voix, par notre esprit directeur qui cause à travers notre petite voix. Donc c'est à chacun de découvrir pourquoi il est venu là. Et qu'est-ce qu'il a à faire? Et pour ça, il faut l'écouter. Alors bien sûr, il y a des affinités vibratoires. C'est que si il y a un rouage, par exemple, de Taragrin, alors admettons que l'équipe au sol, c'est-à-dire principalement Corinne, moi et Brigitte, hein, on est un trio, donc on a une mission pour l'instant sur cette terre qui est de faire des blogs et de transmettre l'information. Le truc, c'est, admettons que ça appartienne à l'aiguille des minutes. Il est évident que si la demoiselle Taragrin a un pignon qui est en rapport avec les minutes, un rapport direct, hein, c'est-à-dire qu'il y a un contact direct avec avec l'aiguille des minutes, c'est sûr qu'elle va se sentir attirée. Donc, elle est attirée, tu es attirée par une vibration, certes, mais maintenant, il te reste à découvrir quelle est ta véritable mission. Et ça, c'est pas nous qui pouvons te le dire. C'est seulement toi. Alors bien sûr que en notre présence, ça sera peut-être plus facile, puisqu'il y aura un effet de résonance. Donc tu sauras, mais n'empêche que la réponse est en toi. Personne ne peut vous dire ce que vous avez à faire. Si quelqu'un vous dit « Ah, toi t'es fait pour ci, ou t'es fait pour ci, ou t'es fait pour ça », dites-vous bien que la personne qui vous dit ça n'est pas totalement dans la vérité. Elle peut pressentir des choses, mais elle ne peut vous dire dans l'exactitude ce que vous allez faire. Surtout si ça vire au futur. Personne ne sait. Pour la simple bonne raison, c'est que tout se vit au présent. Donc le futur n'existe pas. Donc personne ne peut vous dire « Ah, voilà, tu vas devenir ceci, tu feras cela ». Ça veut dire que la personne qui vous dit ça commence à faire un mélange entre ses projections personnelles, les projections des ressentis qu'elle a vous concernant. Mais ce n'est pas forcément la vérité. Et il peut y avoir un soupçon de vérité. Mais ce n'est pas la totale vérité. Parce que c'est un piège. Quand quelqu'un vous dit ça, c'est un piège. Il vous enferme dans une projection. Ah, toi, tu deviendras ceci et tu feras cela. Et donc votre mental ego va s'en emparer, et comme il va s'en emparer, il va vouloir mettre ça bien sûr à sa sauce, et le résultat, vous êtes sûr que ça va foirer. Mais en plus, si c'est pas tout à fait le cas, vous allez vous enferrer dans une voie qui est sans issue pour vous, puisqu'elle ne vous correspond pas. Donc c'est pour cela, n'attendez pas que quelqu'un vous dise ce que vous avez à faire. Il peut bien sûr spontanément vous donner une orientation, une direction, un ressenti qu'il a, mais c'est vous, en tant que créateur incarné, qui saurez véritablement ce qui est à faire. Mais il n'est pas interdit de demander à droite et à gauche, on va dire, des confirmations, dans le sens que si 5 personnes différentes, dont 4 que vous ne connaissez pas, vous sentent la même chose par rapport à vous, c'est quand même un élément important qu'il faut savoir prendre en compte. Si quelqu'un un jour vous dit « Ah bah là, tu me racontes des conneries », enfin, tu me racontes des conneries, je veux dire, tu dis que t'es téméraire, mais je te vois pas du tout téméraire, s'il y en a 5 d'affilée qui vous disent la même chose alors qu'ils se connaissent pas et qui et qu'en plus, ils viennent juste de vous rencontrer, vous pouvez vous dire que là, peut-être que vous vous faites une illusion en pensant que vous êtes téméraire. Hein? Dites-vous bien, les autres en face de vous sont des miroirs. Donc, faut savoir s'en servir. Une question de Marie et Flocon 1. Vous me semblez débordé de travail et mission. Alors la question que je me pose est, comment puis-je ou peut-on vous aider? N'ayant pas vos capacités, mais si un petit coup de main peut être utile. Alors c'est là que c'est important de comprendre que nous avons tous bien sûr des missions sur cette terre. Nous avons d'abord à être nous-mêmes, à nous reconnecter à nous-mêmes. Et c'est seulement en faisant cela que nous savons quels sont les objectifs de cette vie, de pourquoi on est là. Quelle en est, on va dire, la cause première. Donc, effectivement, on peut toujours avoir besoin d'un coup de main. Mais, globalement, le fait simplement de se mettre au service, on va dire, du tout, de se mettre au service du sans-nom, de se mettre au service de la nature, de se mettre au service des hommes, et de tout être, et de toute forme de vie, fait que votre ego recule, parce que lui ne pense qu'à lui. Lui veut ses plaisirs, et donc le fait de penser à autre chose que vous fait que spontanément vous serez attiré par effet résonance vers les choses que vous êtes faites pour. Donc si vous êtes faites pour organiser, eh bien quand il y aura un besoin d'organisation chez quelqu'un, vous serez attiré et vous lui proposerez, dire « Écoute, est-ce que je peux t'aider là ? Parce que ça, je sais faire. » D'accord ? Donc, bien sûr que les personnes peuvent nous aider dans nos missions, car nous sommes débordés. Et effectivement, c'est comme dans une cuisine où, d'un seul coup, vous avez 10 personnes qui viennent se mettre à table. Vous pouvez être le chef de la cuisine, mais arrive à un moment, vous n'avez pas 10 mains pour couper toutes les carottes et faire tous les plats et tous les machins. Alors, vous pouvez bien sûr là être heureux de voir quelques personnes qui se proposent à éplucher les carottes, d'autres à couper les tomates, d'autres à laver la salade. On est d'accord. C'est-à-dire que les choses viendront et se feront naturellement. Et donc, c'est derrière un appel vibratoire que l'on sent. Et donc, se proposer est déjà une bonne chose. Mais la difficulté, vous comprenez, c'est que je ne peux pas demander aux gens, un, que je ne connais pas, deux, que le temps que je leur dise qu'est-ce qu'il faut faire, j'aurai le temps de le faire 3 fois. Il est difficile et il faut garder, on va dire, cette fluidité qui dit de toute façon, nous sommes tous des rouages et si je fais mon boulot, tôt ou tard, ceux qui ont envie de tourner avec ce rouage tourneront. Mais pour l'instant, il est évident que c'est pas simple de savoir qui peut aider qui. Là, faut simplement suivre, on va dire, son cœur et les opportunités. Donc un jour, eh bien, si vous sentez, si votre petite voix vous dit, ben voilà, propose-toi ceci, propose-toi cela, c'est que ça correspond effectivement à quelque chose. Donc quand j'ai un besoin dans un domaine spécifique et je vois que je marche à fond, généralement je lève le doigt. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas, on va dire, sous-traiter à d'autres. Je ne peux pas sous-traiter certaines parties de ma mission. Je ne peux pas dire à quelqu'un, écoute, j'ai pas le temps d'écrire un article, est-ce que tu peux en écrire un pour moi? Il ne pourra pas le faire. Vous comprenez, donc il y a d'autres choses. Comme par exemple, quand quelqu'un demande un entretien, je ne peux pas dire, bon, bah, écoute, moi j'ai pas le temps, je te refile avec quelqu'un d'autre. Démarque-toi avec lui. La personne qui a demandé, m'a demandé, ou a demandé encore une, mais n'a pas demandé l'autre personne. Donc il y a des tâches qu'on ne peut pas déléguer. Il y a des tâches qui sont incontournables. Et c'est pour ça que quand on dit que Je semble débordé. C'est vrai que je suis débordé, mais je suis débordé souvent dans des choses de ma mission à moi et que je ne peux pas déléguer. Parce que si c'était des choses que je pouvais déléguer, je le ferais volontiers. Donc, là, je pars en tournée, et eh bien, par exemple, comme je l'ai dit dans l'article d'aujourd'hui, c'est un rassemblement collectif. Donc, si chacun y met du sien, et eh bien, ça se prend. Mais si on doit tout organiser, absolument tout, eh bien, ça va être d'une pénibilité totale. Donc, le résultat, eh bien, j'ai déjà tellement de choses à faire que je préfère pas le faire. Donc, si des gens se proposent à organiser une rencontre, eh bien, qu'ils le fassent. Ça m'empêchera, enfin, ça m'empêchera d'y passer du temps. Vous comprenez? Donc, chacun dans son coin peut, à sa manière, à sa vitesse, faire que l'horloge puisse fonctionner correctement. Mais on ne peut pas remplacer un rouage par un autre rouage, surtout s'ils ne sont pas de même taille, de même dimension, et qu'ils ne sont pas faits pour faire la même chose. Comment un rouage qui indique les secondes peut-il, d'une certaine manière, remplacer le rouage qui indique les heures? Et non, il n'a pas la bonne taille, les bonnes dents, et pourtant c'est un rouage, et il est utile comme tous les autres. Donc, je ne suis pas là pour refuser l'aide. Mais cette aide, et c'est ça qui est beau quand on est en écoute avec les êtres de la nature, c'est que toutes les choses se passent avec fluidité. C'est-à-dire que ils savent, ils sont convaincus, ils savent que chaque chose se présentera en temps et en heure, au moment où il le faut. Et si ça ne se présente pas, eh bien, comme derrière l'autre, on va s'arracher un peu les neurones pour voir comment on peut faire. Et souvent, on découvre qu'on était capable de le faire. Donc, un être de la nature, par définition, offrira toujours un don de lui-même. Et son plus grand cadeau que vous pouvez faire, c'est d'accepter ce don. Mais pour l'accepter, il faut en avoir besoin. Si vous n'en avez pas besoin, il s'en rendra compte que c'est comme si vous acceptez le don d'un menuisier qui dit je veux faire un meuble, et puis ben, vous n'avez pas de maison, il dit mais comment veux-tu que je te fasse un meuble? T'as même pas une baraque où le mettre. Donc, accepter un don pour un don n'est pas un cadeau en soi. Un cadeau offert par un être de la nature, c'est déjà de prendre la responsabilité de dire oui, d'accord, j'accepte ta collaboration, mais il va falloir derrière donner, on va dire, le travail conséquent à faire. Parce que s'il n'a pas de travail, il va se rendre compte que rapidement, t'as dit oui pour lui faire plaisir, mais que tu n'y as pas fait plaisir, qu'il a perdu son temps. Alors, attendez, je lis les questions sur le chat pour l'instant. Comment savoir quoi faire pour réparer les dégâts de travaux faits à côté d'une porte et d'un vortex? Écoutez, c'est pas difficile. Si vous n'arrivez déjà pas à détecter un vortex, vous pourrez nullement le réparer. Et déjà, la deuxième chose, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est commandable par votre mental ego. C'est-à-dire que moi et Corinne, nous n'intervenons que sur demande des dragons. Hein. C'est-à-dire que les dragons sont les gestionnaires, ce sont les électriciens de la grille cristalline et de toutes les grilles en règle générale. Donc, ce n'est que sur ordre et sur leur demande. C'est-à-dire que si ils nous disent d'aller là pour faire ça, on y va et on le fait. Mais nous ne prenons aucune initiative concernant quoi que ce soit. Sur les vortex et tout le reste. Nous ne faisons que répondre à la demande. Et s'ils nous demandent, c'est parce que nous offrons notre service. Mais en aucun cas, ce que nous faisons est issu de notre volonté de vouloir faire quelque chose. Hein, vous comprenez, dire, ah, il y a un vortex, je vais le déplacer. Alors là, ça n'existe pas. On ne fera que si on a l'accord et sur demande uniquement. C'est ça le respect. Hein. C'est imaginer que, comme je disais, les dragons sont les électriciens, on va dire de la grille cristalline principalement. Donc imaginez que vous êtes l'électricien qui s'appelle EDF. Et puis vous avez n'importe qui dit, ah voilà, il y a un poteau qui me fait chier, je vais le déplacer. Oh tiens, là le câble il est bien, mais j'en ai besoin pour faire autre chose, je vais le démonter et puis je vais en faire ce que je veux. Je pense que EDF sera pas très content qu'on s'amuse à faire ce qu'on veut des poteaux, qu'on déplace les lignes électriques, etc. Donc, c'est la même chose au niveau, on va dire, de tout ce qui touche l'énergie de moment Urantia-Gaga et Elea, entre autres. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les électriciens. Nous sommes des mains dans la 3D qui sont là pour défaire ce qui a été fait par l'homme. Parce que eux ne peuvent pas le défaire. Voilà. Donc on revient toujours à peu près aux mêmes choses. Hein? Alors, une question de Bennett. Tu dis que la source nous amène les changements en douceur, sinon on pèterait tous les plombs. Mais il faut bien qu'il y ait tout de même des coups plus durs ou brutaux que d'autres. Sinon, on est reparti pour pioncer encore un tour entier, ça c'est sûr. Je prends pour exemple le continent de Nuit qui a été submergé en une nuit et qui a profondément modifié la surface de la Terre et tous ceux qui y vivaient. Et pour réapparaître à la surface du globe, il va bien falloir que ça bouge sévère. Est-ce l'événement qui nous bouleversera à tel point qu'enfin l'humanité va voir autrement? Alors la réponse est oui. Donc, comment dire? On va dire l'engloutissement du continent de Mu a été dû à, principalement, on va dire, des essais atomiques qui ont fracturé le continent, on va dire, initial et qui, par tremblement de terre, a fait que d'un seul coup, comme vers l'autre, l'assiette était entre deux chaises et il y a une chaise qui s'est écartée un peu plus. Donc le continent, il a quasiment s'est enfoui. Donc ce qui veut dire que c'est quelque chose qui a été brutal, qui était un effet mécanique brutal et qui n'était pas la volonté du sang ou de maman Rantia-Gaïa. Ça a été tout simplement une conséquence directe des conneries faites par les humains de cette époque. Donc, quand la bombe nucléaire est tombée sur Hiroshima, ça n'a pas dit on va mettre 15 jours pour qu'elle éclate. Quand elle est tombée, ça a fait boum et 10 minutes après, restait plus rien. D'accord? Donc, tous les événements déclenchés par l'humain sont souvent violents. Parce qu'il ne sait pas avec quoi il joue. Par contre, tous les événements qui sont, on va dire, entrepris par maman Gaïa et par toutes les entités, on va dire, de l'invisible, sont des mouvements, on va dire, d'amour et donc, comme dirait l'autre, de progression lente. Mais lente dans le sens qu'il y aura quand même remontée du continent de Mu, mais pas en une nuit. C'est-à-dire, ça va être quelque chose de lent, progressif. Parce que si c'était en une nuit, vous imaginez que celui qui habite à Hawaï va se retrouver au mont Everest à 8000 mètres ou 9000 mètres d'altitude. Alors, si le soir il va se coucher, comme dirait l'autre, avec les tongs et Bermuda, c'est sûr que le lendemain matin, se retrouver à moins 30 degrés, je sais pas s'il va réaliser, hein. Donc, comprenez que la descente du continent de Mu s'est faite progressivement quand même. Alors, bon, ça a été rapide d'une certaine manière, mais ça s'est quand même englouti, on va dire, assez rapidement. Mais toute une histoire de surface. C'est-à-dire qu'à la base, à la surface, bah, il s'est fait engloutir assez rapidement en une nuit, mais quand même, les montagnes, il faut savoir que le continent de Mu, c'est du côté d'Hawaï, si ma mémoire est bonne, et la montagne fait à peu près 9000 mètres d'altitude. Donc, vous enfouissez pas 9000 mètres d'un seul coup, en une seule fois. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de la vallée, ça a été assez brutal, parce qu'une descente de 10 mètres, ça a dû quand même faire du remue-ménage. Mais il faut savoir que ça s'est enfoncé ensuite progressivement, laissant le temps ainsi, on va dire, aux autochtones de pouvoir, comment dire, se monter dans les hauteurs. Voilà pourquoi c'est une hérésie de croire que tous les Polynésiens sont été d'une île à une autre en bateau. En fait, non, ils sont tous montés dans les hauteurs. Enfin bref. Et que si Thomas Cook a découvert toutes les îles, c'est parce que tout simplement, il y avait un Polynésien qui avait toute la carte des îles dans la tête. Et pourquoi il avait la carte des îles? Parce qu'il avait la carte du terrain avant, de tous leurs ancêtres. Et donc, il n'avait pas besoin, ils n'ont pas pris un bateau pour dire, ah, il y a telle île à tel endroit. Et ils savaient où étaient les hauteurs, où étaient les sommets. C'est comme si vous preniez la carte des Alpes aujourd'hui et que vous dites, ben voilà, la terre européenne s'enfonce de, on va dire, 1000 mètres, C'est sûr qu'il pourra vous dire sur la carte, bah, tout ce qui est à plus de 1000 mètres, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et ceci sans prendre un bateau. Mais bon, le préhumain, avec sa caravelle, vous voyez qu'à son niveau, et penser que des gens ont fait des milliers de kilomètres avec des bateaux fabriqués en roseau, ça peut se faire. Oui, d'accord. Mais c'est pas des populations entières. Alors, je passe à autre chose pour l'instant. Quand je me promène en forêt, que je vais dans certaines églises ou lieux de culte, je ressens beaucoup de picotements dans les mains et cela me fait roter. Comment l'expliques-tu ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, quand vous allez dans des églises ou lieux de culte, c'est parce qu'il y a des vortex. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des centres, enfin d'énergie, ce sont des croisements de lignes énergétiques. Et donc, ceci fait monter, entre guillemets, en fréquence le corps. Et faisait monter en fréquence le corps, eh bien, le fait de roter est une chose tout à fait normale. C'est comme une bulle qui part du fond de l'eau. La bulle au fond de l'eau, elle est toute petite parce qu'il y a une pression énorme. Mais dès que tu vas mettre un peu de mouvement, hein, admettons que tu balances une pierre, enfin, quelque chose qui fait que la pression va diminuer, puisque en balançant une pierre, l'eau va s'écraser, mais va laisser un trou et il y aura un effet d'aspiration. Et donc, derrière cette aspiration, la petite bulle qui était tout au fond complètement comprimée va se retrouver attirée vers le haut. Et donc, en étant attirée vers le haut, elle va grossir. Parce que elle a toujours le même volume, elle a toujours le même nombre d'atomes à l'intérieur d'elle. Mais comme la pression est moindre, eh bien, elle grandit. Et donc, quand vous avez, on va dire, une espèce de rond qui vient se mettre, hein, c'est-à-dire que vous le sentez souvent, ça part souvent à partir, on va dire, du troisième chakra, quatrième chakra, c'est à peu près là. Quand vous sentez qu'il y a des roues qui remontent, eh bien, c'est que vous êtes en expansion. Ça veut dire qu'il y a certains de vos corps qui sont en train de se déplier. Et en se dépliant, eh bien, ils créent cette aspiration qui permet à ce qui était comprimé de pouvoir sortir. Et donc, si vous faites attention à certains moments, eh bien, vous verrez, vous avez des bulles d'air qui remontent dans les poumons. Enfin, je veux dire, vous verrez, et vous voyez, vous sentez la bulle d'air qui remonte. Mais attends, et vous sentez que ça vient pas de l'estomac, mais vous rotez avec les poumons, c'est assez bizarre, mais ça peut se faire aussi hein, dans le tube digestif, mais la sensation est surtout au niveau pulmonaire. Et donc c'est un effet énergétique. Donc quand tu vas dans les endroits de culte, eh bien l'énergie qui est présente déploie entre guillemets ta géométrie, et en la déployant, elle permet cette expansion de ce qui était contenu. Voilà. Alors, je reviens sur une question des fribourgeoises. Pourrais-tu nous en dire plus sur le continent de Mu ? Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela signifie qu'il remonte pour Gaïa et pour l'humanité ? Va-t-il être habitable ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des configurations, on va dire, c'est comme un bâtiment. T'imagines un bâtiment qui s'est écroulé et la moitié est tombée dans la mer. Et on te dit reconstruis le bâtiment. Eh bien, il va falloir aller chercher des pierres au fond de la mer pour reconstruire le bâtiment. Eh bien, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que dans les terres, dans le continent de Mu, il y a, on va dire, des mémoires. Il y a ce que l'humain a construit à l'intérieur de ce continent. Alors, c'est pas parce qu'il se trouve sous l'eau que tout est nettoyé, que tout est pur, que tout est ok. Non. Ce continent va en remettre le nez dehors, entre guillemets, pour pouvoir faire sortir l'information qui est contenue en lui. En clair, eh bien, tous les gens, donc les Lémuriens, hein, c'est ceux qui étaient dans le continent de Mu, eh bien, vont progressivement y aller gentiment et recoller les morceaux. C'est-à-dire qu'il y a, parmi la population mondiale actuellement, un certain nombre de Lémuriens. Eh bien, ces Lémuriens seront attirés par ce continent de Mu, car ils devront raccrocher les wagons qu'ils ont laissés là. C'est-à-dire qu'ils auront à défaire ce qu'ils ont fait. Alors, concernant le continent de Mu, il faut savoir que les Lémuriens, il existe un certain nombre de choses dites à leur égard, car c'était une population, on va dire, très proche de la nature, et tellement proche de la nature qu'ils avaient assimilé, on va dire, d'une manière exceptionnelle, l'aspect animal des choses. Donc, ils étaient d'une grande sensibilité, d'une grande sensualité, d'une grande... Ils avaient développé un instinct très, 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 très fort. Et ce qu'il y avait, c'est que quand les Atlantéens sont apparus, les Atlantéens ont passé plus par la tête et moins par, on va dire, le corps. Parce que les Lémuriens avaient une grande expérience de tout ce qui touchait le moteur de la Terre, c'est-à-dire le corps humain, hein, tout ce qui touchait au premier et deuxième chakra. Les Atlantéens sont venus pour passer au moteur suivant, c'est-à-dire la 3D, 4D, on peut dire, c'est-à-dire la 3D, c'est la pensée, le mental. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu conflit entre ces deux populations. Parce qu'il y avait une population qui était, bien sûr, de forme humanoïde, mais qui vivait avec le moteur de la Terre, alors que les Atlantéens étaient bien sûr des humanoïdes aussi, mais qui étaient venus expérimenter plus le moteur de l'humain. Et donc, il y a eu conflit entre les deux. Mais voilà, dans ce que je voulais dire. Donc, en voulant passer en 5D, 6D, c'est-à-dire dans le moteur du ciel, eh bien, il est absolument nécessaire que le continent de Mu réapparaisse afin que le moteur de la Terre soit remis, on va dire, en équilibre avec le moteur du ciel. Voilà pourquoi l'un ne va pas sans l'autre. Alors, bien sûr, le continent de Mu sera habitable. Alors, quand ça va sortir du fond de la mer, il est évident que ça sera que de la boue avec du sel. Et donc, il faudra attendre quelques années, quelques dizaines d'années, pour que les pluies commencent à laver le sol, etc., etc. Et en fait, la vie va, d'une certaine manière, reprendre possession de ce terrain. Donc, se développeront des forêts, des machins, des trucs, et effectivement, on va dire, les Lémuriens reviendront sur l'île de Mu pour aller, d'une certaine manière, décrocher les mémoires qui sont encore inscrites dans cette matière. Comprenez cela, hein? Donc, on ne peut pas séparer 5D, 6D du continent de Mu. Voilà pourquoi nous allons rester, si vous lisez bien sûr mes articles, nous allons rester encore dans le moteur de l'humain, 3D, 4D, entre guillemets, encore quelques dizaines d'années, parce que c'est le temps de transition avant que la 5D, 6D puisse véritablement s'installer. Donc nous sommes au tout début du chemin. Et c'est pour ça que nous disons que nous sommes en l'an 2 du Nouveau Monde. L'an 2. C'est pas beaucoup, 2. Mais encore, on est au début. Donc, on est vraiment tout début. Et donc, l'ère de la 5D, 6D démarrera, on va dire, totalement, quand la 3D, 4D aura totalement disparu. Donc, il y a une période de transition entre les deux. D'où cette notion de dôme. C'est-à-dire que iront sous les dômes ceux qui sentent la vibration 5D, 6D, et resteront à côté des dômes ceux qui sont encore en 3D, 4D. Donc, Maman Orantia va faire du ménage à sa manière, entre guillemets, parce que comme elle monte en fréquence, tout ce qui sera en 3D, 4D va dépérir d'une manière ou d'une autre. Alors, on ne sait pas par quels éléments, mais ça, il y aura l'eau, le feu, l'air, enfin, le vent, il y aura tout ce qu'il faudra pour que, effectivement, ce qui était de 3D, 4D disparaisse. Donc, quand nous allons passer en 5D, 6D, il ne restera pas d'HLM, il ne restera pas de pont, il ne restera pas d'autoroute, tout ça aura été nettoyé. Alors, là où il y aura les dômes, eh bien, ça sera donc des aires qui seront, on va dire, mises à disposition d'abord des êtres de la nature, forcément, et ensuite des humains, c'est-à-dire de ceux qui seront passés du stade de pré-humain à humain, et c'est-à-dire qui vivront dans un collectif, dans un amour inconditionnel, dans le non-jugement, et qui vivront leur moment présent, leur icité, sans se poser de questions, et qui s'entraideront forcément, puisqu'ils seront au service. Donc, faisant cela, ils pourront petit à petit, on va dire, réparer ce qui a été fabriqué par la main de l'homme, déjà dans un premier temps. Et donc, tous ceux qui seront encore en 3D, 4D, à fur et à mesure que les événements vont leur tomber sur le dos, vont quand même commencer à comprendre qu'il y a des coins qui les appellent. Et c'est là qu'ils viendront grossir les rangs des dômes. Mais dans les dômes, dans un premier temps, n'iront dans les dômes que ceux qui se sentent appelés par les dômes. Et donc, ils commenceront, comme des ouvreurs de chemin, à construire des choses. Hein? Ils construiront, mais d'une manière, on va dire, écolo, d'une manière respectueuse de l'environnement et en accord avec les peuples de la nature. Donc, ils auront des jardins, mais ils n'auront pas les engrais chimiques, ils n'auront pas les désherbants, car ils auront le total respect de cela. Donc, le monde qui vient à nous n'est pas un monde d'amélioration de ce qui existe aujourd'hui. C'est un monde différent, où il y a un retour direct à ce que nous sommes véritablement. Donc, les gens qui iront dans les dômes en premier, ce sont bien sûr forcément les gens qui sont en contact avec les êtres de la nature et qui ont la capacité, bien sûr, de les entendre. Parce que vous n'irez pas dans un dôme sans être capable de dire « Ah ben tiens, là, je vais construire ma baraque, il y a déjà un village de nains qui est là. » Il n'est pas question de dire « Ah tiens, je vais couper l'arbre, celui-là, parce que là, il m'emmerde et il me cache la vue. » Non, non, ça n'existera pas. Donc, il y aura les ouvreurs de chemin. Et une fois que les ouvreurs de chemin ont commencé à construire des mini-communautés, eh bien, on va dire, le reste de la population qui se sentira attirée, qui sentiront l'appel, à ce moment-là viendront. Et puis, il y aura les purs et les durs qui disent « tout ça, c'est que des conneries », eh bien, ils auront un tremblement de terre, ils auront un tsunami, ils auront quelque chose, mais de toute façon, ils ne continueront pas dans cette forme. Ils iront continuer l'expérience sur une planète bis, on va dire, enfin les fameuses 10 planètes, qui sont des plans d'existence prévus par Maman Rothiak Gaïa, en attendant que, comme dirait l'autre, ils se mettent du plomb dans la tête. Et quand ils auront fini leur excursion sur les 10 planètes, ils pourront venir sur Orentia Gaïa, et qui sera effectivement sa décision. Alors, je vais continuer à lire. Est-ce que, à la fin, j'ai réponse à tout? Question à l'intérieur de moi, oui. Je comprends pas, Fanny, là. Il faut plus clair. Et sa géométrie, ou plutôt taille. Là, bon. Bref, là, dans le chat, je ne peux pas, parce que les questions s'affilent et ils sont incomplets pour moi. Alors, une question de Michael. Parle du retour du continent de Mulu. Tu veux dire que cela créera un gigantesque tremblement de terre. Alors, le truc, ce qui est important, c'est qu'effectivement, déjà, il y a toute la ceinture de feu du Pacifique. Donc, toute la ceinture du Pacifique, de feu du Pacifique se réveille. Et pourquoi elle se réveille? Parce que le continent est en train de remonter. Donc, forcément, ça s'appelle une plaque tectonique et elle remonte. Donc, concrètement parlant, ça pousse. Donc, ces tremblements de terre sur pratiquement tout le pourtour du Pacifique. C'est clair. Donc, une fois que... Donc, ça va trembler. Hein, San Francisco, ils ont une durée de vie limitée, là. Ainsi que tous ceux qui sont plus ou moins sur les frontières du Pacifique. Donc, s'ils comprennent, ils vont prendre leur clic et leur claque et aller plus haut, plus loin. S'ils ne le font pas, bon. Hein, ils viendront des fossiles quelque part. Le truc, c'est qu'effectivement, ça va faire trembler, donc on peut dire, toutes les Amériques, puis tout ce qui se touche de l'autre côté de l'Asie, hein, ça va brasser dur, n'importe où. Et bien sûr, ça va faire monter le niveau des eaux. Parce que quand vous avez un contentement qui remonte, l'eau, elle est fluide. Hein. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller se barrer là où c'est plus bas. Hein. Donc, vous pouvez donc considérer que les océans et le monde entier vont augmenter leur niveau, la hauteur. Donc, ce qui va se faire, c'est que progressivement, la hauteur de l'Atlantique va monter 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Et donc, ça ira à la vitesse où ça ira, mais une chose est claire, c'est que si pour l'instant vous habitez en bord de mer, c'est peut-être sympa la plage, mais dites-vous bien que cette plage ne sera peut-être plus là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ni la baraque non plus. Voilà. Donc, il y aura aussi d'autres choses, et ça, quand je l'ai écrit, c'est que, comme bien sûr, tout est en connexion, il y aura forcément des montagnes. Il faut bien que les montagnes comme les Alpes, comme les Pyrénées, comme bien d'autres, sont quand même des chocs qu'il y a entre différentes plaques. Donc, si vous avez la plaque de nuit qui remonte, vous pouvez imaginer que ça va brasser aussi au niveau du joint des autres plaques. Vous savez, comme des plaques, vous déplacez au niveau, vous avez comme des morceaux sur un étang, enfin, on va dire dans une bassine, forcément, s'il y a un cube au fond qui remonte, les autres, ils vont tous gigoter. Donc, grosso modo, celui qui se dit, ouais, je m'éloigne de la mer, et je vais aller là-haut sur la montagne, il est pas dit que la baraque qu'il va construire dans la montagne va tenir debout. En clair, là où il y a des fissures, des plaques tectoniques, il fait pas bon y aller, comme on dit. Hein. Donc là où il y a des endroits où ça, il n'y a pas eu de tremblement de terre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Donc, en clair, ça va brasser partout, plus ou moins fort selon les cas, et cela dépendra du nombre d'individus capables de monter en fréquence, c'est-à-dire en 5D6D. En effet, plus il y aura d'individus capables de monter en 5D6D, et plus nous serons capables de pouvoir modifier les éléments, on va dire, les éléments feu de la matière, et donc de la lave. En clair, autant nous avons une influence sur la météo de par nos émotions, autant nous avons une influence sur, on va dire, tout le sismique de par notre montée en fréquence. Si nous montons en fréquence suffisamment, eh bien, on va dire que les secousses sismiques seront faibles. Si par contre, nous ne bougeons pas notre cul, elles seront maximales. Car cette masse en fusion, ce magma, n'est ni plus ni moins de la matière contenant toutes les énergies que nous avons créées en tant que créateur incarné. En clair, si tu ne fais pas la paix avec toi-même, tu es en train de chauffer le magma. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais c'est la réalité. Donc, un certain nombre d'individus sur Terre essayent quand même de calmer, on va dire, le jeu, mais ils sont en nombre encore trop insuffisant pour pouvoir avoir une action vraiment palpable. Alors, elle est palpable, c'est-à-dire que le tremblement de terre qu'il devait y avoir hier, il se fera la semaine prochaine ou dans 15 jours. Donc, il y a un décalage temporel, mais il n'y a pas suffisamment d'individus pour, on va dire, stopper la chose. Donc, il y aura effectivement le continent de nuit qui va remonter. Ça, on est clair. Simplement, on peut limiter la casse et le nombre de morts d'une façon assez importante. Mais pour cela, il faut un nombre suffisant d'individus qui puissent, on va dire, augmenter leur fréquence et se mettre au service. Vous savez, c'est chaque dôme sera comme un lampadaire puissant. Et plus il y aura de dômes, et plus la puissance de ces dômes seront importants, et plus elles pourront recouvrir le maximum de terrain. Et plus elles recouvriront le maximum de terrain, et plus ça sera en sécurité. J'espère que vous comprenez le principe. Et voilà pourquoi, entre autres, les êtres de la nature se rassemblent à certains endroits, c'est pour augmenter la fréquence. Et donc, à ces dômes, il y a forcément un circuit énergétique en état de marche, c'est-à-dire un treillis de la grille cristalline avec des vortex qui les alimentent correctement. Car s'il n'y a pas alimentation par des vortex et une grille cristalline reconstituée, le dôme ne peut pas tenir. Donc, d'où ce travail de fourmi, de reconstruction de la grille cristalline à certains endroits, de la relance systématique de certains vortex, tout en sachant que les énergies actuellement reçues par Maman Rantia Gaïa, que le Soleil nous envoie et que que Alcyone nous envoie aussi, font que l'énergie devient de plus en plus importante et que un grand nombre de vortex se mettent à se réveiller aujourd'hui. Le problème, c'est que là où il n'y en avait pas vraiment avant, parce que la grille cristalline avait quasiment disparu, eh bien, ils se remettent en marche. Or, le problème, c'est que les lignes énergétiques ont été coupées par des ponts, par des infrastructures, par des villes, par des tas de choses qui font que bah, quand ils se remettent à tourner, ils sont complètement déstabilisés, comme une toupie. Ils sont déstabilisés. Et comme ils sont déstabilisés, eh bien, ils créent à ce moment-là des énergies dissonantes qui sont très préjudiciables, non seulement aux êtres de la nature, mais à l'humain lui-même. Donc, les personnes capables d'aller, on va dire, redresser ces vortex doivent être des personnes ayant une vibration suffisante, ainsi que certaines protections, pour que eux-mêmes ne soient pas balayés par les effets dissonants de ces vortex. En clair, si vous êtes un électricien prévu pour bosser sur des lignes à 200 000 volts, vous avez l'outillage et la carcasse nécessaire pour le faire. Mais si vous êtes le zozio qui pensait que vous pouvez vous amuser avec ça, c'est sûr que dès que vous allez mettre les pattes sur le câble à 200 000 volts, vous allez griller instantanément. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, chacun a son travail, chacun a sa mission en fonction de ce qu'il est, et notre mission à moi et à Corinne est très simple. Nous sommes des électriciens de haute tension, on va dire. C'est-à-dire qu'on est fait pour recâbler de la très haute tension. Mais on n'est pas là pour faire la distribution de 120 volts à tout le monde. Alors bien sûr, en recâblant de la haute tension, ça permet d'alimenter pas mal de gens, on est d'accord, mais notre mission principale est la reconstruction, on va dire, à des endroits précis qui nous sont donnés par les dragons, et ce sont des choses à haute tension. Donc, quand quelqu'un me dit « Ah, moi j'ai activé un vortex », on dit « Ok, très bien ». Tout le monde peut bien sûr amener le courant électrique dans une maison. On est d'accord, tout le monde peut installer le 380 ou 220. Mais il n'y a pas grand monde qui sont capables d'amener des lignes à 200 000 volts et d'installer les transformateurs. Donc, chacun son travail. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Mais il est évident que ceux qui font dans le gros calibre et dans les grosses charges doivent passer d'abord en premier, parce que vous savez très bien, quand il y a une catastrophe et qu'une haute tension s'est écroulée quelque part ou a été coupée, c'est des milliers, voire des millions de gens qui n'ont plus d'électricité. Alors que si c'est l'arbre du voisin qui est tombé sur le poteau électrique et puis il y a trois maisons qui ne sont pas alimentées, c'est pas le même travail. Alors bien sûr, on dirait une reconnexion, retirer les câbles semble être le même travail, mais ce qu'il faut regarder, c'est que ce n'est pas forcément les mêmes lignes et les mêmes forces qui sont mises en compte. Ok ? Alors, une question de Raymond. Existe-t-il un relevé de ces vortex ? Alors, la réponse est oui et non. C'est-à-dire qu'il existe un relevé fait par les autorités officielles, mais qui reste totalement secret. C'est-à-dire qu'il est constaté qu'à chaque fois que nous remettons certaines parties de la grille cristalline en route, c'est-à-dire qu'on reconnecte et que l'on fait quelque chose, eh bien, les autorités le savent, et tu as quelques hélicoptères, généralement noirs, de l'armée, qui viennent voir qu'est-ce qui se passe, car ils ont enregistré localement une énergie électromagnétique anormale. Donc, dites-vous bien que le gouvernement, et particulièrement l'armée, savent très bien et ont une cartographie, effectivement, des vortex. Mais bien sûr, cela n'est pas mis à disposition du commun des mortels. Donc tout le monde connaît le projet ARP, et bien c'est la même chose chez nous ici et partout. C'est-à-dire que tous les gouvernements savent exactement où sont les points de culte, où sont les vortex, où sont les lignes, et ils connaissent tout ça par cœur. Et bien sûr, ils arrivent à faire tout ça avec les impôts qu'on paye. Mais ça, c'est pas pour le peuple. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir, et parce que j'ai plus de questions, et je vous souhaite une bonne continuation, et à l'occasion de nous rencontrer physiquement un de ces jours. Merci.